Frédéric allégua une affaire urgente, puis courut à Auteuil. Madame Arnoux laissa échapper un cri de joie. Alors, toute sa rancune s'évanouit. Il ne parla point de son amour. Pour lui inspirer plus de confiance, il exagéra même sa réserve. Et lorsqu'il demanda s'il pouvait revenir, elle répondit « Mais sans doute », en offrant sa main, qu'elle retira presque aussitôt. Frédéric, dès lors, multiplia ses visites. Il promettait au cocher de gros pourboires, mais souvent, la lenteur du cheval l'impatientant, il descendait, puis, hors d'haleine, grimpait dans un omnibus. Et comme il examinait dédaigneusement les figures des gens assis devant lui et qui n'allaient pas chez elle, il reconnaissait de loin sa maison, un chèvrefeuille énorme couvrant d'un seul côté les planches du toit. C'était une manière de chalet suisse peint en rouge, avec un balcon extérieur. Il y avait dans le jardin trois vieux marronniers, et au milieu, sur un tertre, un parasol en chaume que soutenait un tronc d'arbre. Sous l'ardoise des murs, une grosse vigne mal attachée pendait de place en place comme un câble pourri. La sonnette de la grille, un peu rude à tirer, prolongeait son carillon, et on était toujours longtemps avant de venir. Chaque fois, il éprouvait une angoisse, une peur indéterminée. Puis, il entendait claquer, sur le sable, les pantoufles de la bonne. Ou bien Madame Arnoux elle-même se présentait. Il arriva un jour, derrière son dos, comme elle était accroupie, devant le gazon à chercher de la violette. L'humeur de sa fille l'avait forcé de la mettre au couvent. Son gamin passait l'après-midi dans une école. Arnoux faisait de longs déjeuners au Palais Royal, avec Reginbard et l'ami Compin. Aucun fâcheux ne pouvait les surprendre. Il était bien entendu qu'ils ne devaient pas s'appartenir. Cette convention qui les garantissait du péril facilitait leurs épanchements. Elle lui dit son existence d'autrefois, à Chartres, chez sa mère. Sa dévotion vers 12 ans, puis sa fureur de musique, lorsqu'elle chantait jusqu'à la nuit dans sa petite chambre d'où l'on découvrait les remparts. Il lui conta ses mélancolies au collège, et comment, dans son ciel poétique, resplendissait un visage de femme, si bien qu'en la voyant pour la première fois, il l'avait reconnue. Ses discours n'embrassaient d'habitude que les années de leur fréquentation. Il lui rappelait d'insignifiants détails, la couleur de sa robe à telle époque, quelle personne un jour était survenue, ce qu'elle avait dit une autre fois. Et elle répondait, tout émerveillée, « Oui, je me rappelle. » Leur goût, leur jugement étaient les mêmes. Souvent, celui des deux qui écoutait l'autre s'écriait « Moi aussi !» Et l'autre, à son tour, reprenait « Moi aussi !» Puis, c'était d'interminables plaintes sur la Providence. Pourquoi le ciel ne l'a-t-il pas voulu? Si nous nous étions rencontrés? Ah, si j'avais été plus jeune, soupira-t-elle. Non, moi un peu plus vieux. Et il s'imaginait une vie exclusivement amoureuse, assez féconde pour remplir les plus vastes solitudes, excédant toute joie, défiant toutes les misères, où les heures auraient disparu dans un continuel épanchement d'eux-mêmes et qui auraient fait quelque chose de resplendissant et d'élevé comme la palpitation des étoiles. Presque toujours, il se tenait en plein air, au haut de l'escalier. Des cimes d'arbres jaunis par l'automne se mamelonnaient devant eux, inégalement, jusqu'au bord du ciel pâle. Ou bien, ils allaient au bout de l'avenue, dans un pavillon ayant pour tout meuble un canapé de toile grise. Des points noirs tachaient la glace. Les murailles exhalaient une odeur de moisi, et ils restaient là, causant d'eux-mêmes, des autres, de n'importe quoi, avec ravissement. Quelquefois, les rayons du soleil, traversant la jalousie, tendaient depuis le plafond jusque sur les dalles comme les cordes d'une lyre. Des brins de poussière tourbillonnaient dans ces barres lumineuses. Elle s'amusait à les fendre avec sa main. Frédéric la saisissait doucement et il contemplait l'entrelac de ses veines, les grains de sa peau, la forme de ses doigts. Chacun de ses doigts était pour lui plus qu'une chose, presque une personne. Elle lui donna ses gants, la semaine d'après son mouchoir. Elle l'appelait Frédéric, il l'appelait Marie, adorant ce nom-là, fait exprès, disait-il, pour être soupiré dans l'extase, et qui semblait contenir des nuages d'encens, des jonchées de roses. Ils arrivèrent à fixer d'avance le jour de ses visites, et sortant comme par hasard, elle allait au-devant de lui sur la route. Elle ne faisait rien pour exciter son amour, perdue dans cette insouciance qui caractérise les grands bonheurs. Pendant toute la saison, elle porta une robe de chambre en soie brune, bordée de velours pareil, vêtements larges convenant à la mollesse de ses attitudes et à sa physionomie sérieuse. D'ailleurs, elle touchait au mois d'août des femmes, époque tout à la fois de réflexion et de tendresse, où la maturité qui commence colore le regard d'une flamme plus profonde. quand la force du cœur se mêle à l'expérience de la vie et que sur la fin de ses épanouissements, l'être complet déborde de richesse dans l'harmonie de sa beauté. Jamais elle n'avait eu plus de douceur, d'indulgence. Sûre de ne pas faillir, elle s'abandonnait à un sentiment qui lui semblait un droit conquis par ses chagrins. Cela était si bon du reste, et si nouveau. Quel abîme entre la grossièreté d'Arnoux et les adorations de Frédéric. Il tremblait de perdre par un mot tout ce qu'il croyait avoir gagné, se disant qu'on peut ressaisir une occasion et qu'on ne rattrape jamais une sottise. Il voulait qu'elle se donnât et non la prendre. L'assurance de son amour le délectait comme un avant-goût de la possession, et puis le charme de sa personne lui troublait le cœur plus que les sens. C'était une béatitude indéfinie, un tel enivrement, qu'il en oubliait jusqu'à la possibilité d'un bonheur absolu. Loin d'elle, des convoitises furieuses le dévoraient. Bientôt il y eut dans leur dialogue de grands intervalles de silence. Quelquefois, une sorte de pudeur sexuelle les faisait rougir l'un devant l'autre. Toutes les précautions pour cacher leur amour le dévoilaient. Plus ils devenaient forts, plus leur manière était contenue. Par l'exercice d'un tel mensonge, leur sensibilité s'exaspéra. Ils jouissaient délicieusement de la senteur des feuilles humides. Ils souffraient du vent d'est. Ils avaient des irritations sans cause, des pressentiments funèbres. Un bruit de pas, le craquement d'une boiserie leur causait des épouvantes, comme s'ils avaient été coupables. Ils se sentaient poussés vers un abîme. Une atmosphère orageuse les enveloppait. Et quand des doléances échappaient à Frédéric, elle s'accusait elle-même. « Oui, je fais mal. J'ai l'air d'une coquette. Ne venez donc plus. » Alors il répétait les mêmes serments qu'elle écoutait chaque fois avec plaisir. Son retour à Paris et les embarras du jour de l'an suspendirent un peu leurs entrevues. Quand il revint, il avait dans les allures quelque chose de plus hardi. Elle sortait à chaque minute pour donner des ordres et recevait, malgré ses prières, tous les bourgeois qui venaient la voir. On se livrait alors à des conversations sur Léotade, M. Guizot, le pape, l'insurrection de Palerme et le banquet du 12e arrondissement, lequel inspirait des inquiétudes. Frédéric se soulageait en déblatérant contre le pouvoir, car il souhaitait, comme des lauriers, un bouleversement universel, tant il était maintenant aigri. Madame Arnoux, de son côté, devenait sombre. Son mari, prodiguant les extravagances, entretenait une ouvrière de la manufacture, celle qu'on appelait la Bordelaise. Madame Arnoux la prit elle-même à Frédéric. Il voulait tirer de là un argument puisqu'on la trahissait. « Oh, je ne m'en trouble guère, » dit-elle. Cette déclaration lui parut affermir complètement leur intimité. Arnoux s'en méfiait-il ? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Elle lui conta qu'un soir, il les avait laissés en tête à tête, puis était revenu, avait écouté derrière la porte,